Ce soir, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Vajradhara Kalu Rinpoche, Kalu Dorje Chang, on peut dire Vajradhara Kalu Rinpoche, Vajradhara c'est en sanskrit, ou Kalu Dorje Chang en tibétain, Dorje Chang, Vajradhara, Vajradhara en sanskrit, Kalu Dorje Chang en tibétain. À l'occasion de son anniversaire, l'anniversaire du 27e année de son parinirvana, je voudrais vous parler de ce que l'on peut nommer ses cinq grandes œuvres ou ses cinq bontés. Il y a quelque temps, lorsque j'en parlais à Jamgyen Kenten Taisi Tupai, il me disait, mais Kalu Dorje Chang eut bien plus que cinq grandes œuvres et cinq bontés. C'est vrai, mais ses œuvres, ses bontés sont illimitées. Néanmoins, pour les résumer d'une façon synthétique et en présenter quelques aspects, nous avons mis en cinq points. La vie, l'exemple de notre maître, est quelque chose de très important qui dépasse une sorte de vénération ou d'hommage et qui n'a rien à voir avec un culte de la personne. Dans la tradition, il y a toujours ce qu'on appelle des namtars, des exemples de libération, des vies de libération. Et tous les grands maîtres ont leur namtar, la présentation de leur vie de libération. Celle-ci est très précieuse, très utile pour nous, disciples, pour comprendre, pour sentir le chemin qu'ils ont parcouru, pour percevoir les œuvres qu'ils ont accomplies, et aussi avoir le témoignage d'une vie d'éveil, la lignée de transmission, la filiation de maître à disciple dans une lignée yogique, c'est-à-dire de maître à disciple, l'on est disciple et en suivant la voie, l'on devient maître. Le devenir d'un bon maître et d'avoir des disciples, et de bons disciples de devenir maître. C'est ainsi que de génération en génération, il y a une transmission, il y a une continuité de la lignée, une passation de l'expérience d'éveil, une transmission du flambeau, en lequel, à chaque génération, le feu sacré de l'éveil passe d'un flambeau à un autre comme un relais intergénérationnel. Il y a donc beaucoup de qualités à entrer dans cette intelligence et une grande inspiration. La réalisation dépend de l'inspiration. L'inspiration étant l'état en lequel l'on aspire et s'oublie. Ce matin, je parlais d'aspiration à l'absolu dans l'abnégation de soi. C'est l'inspiration qui nous permet ainsi de lâcher prise, de nous abandonner, de nous dépasser et de nous ouvrir à une réalité plus grande, à, comme disait tout à l'heure Soukassidi, à l'espace tout ouvert, à l'ouverture sans centre ni périphérie, en la clarté de laquelle se suspend la source de l'esprit. Parce qu'il est ainsi très important de témoigner des œuvres et de l'activité de nos ancêtres dans la lignée et de notre lama source en particulier. Nous avons avec différents anciens de la lignée pensé qu'il serait bien de faire un film et un livre pour commémorer Kalu Dorje Chang et que ce soit un témoignage de sa vie, de son œuvre. C'est en cours, ça vient de commencer. Et d'ailleurs, nous recueillons des documents. C'est l'occasion de faire un appel, puisqu'il y a une recherche internationale de documents, d'archives, de témoignages pour contribuer à ces ouvrages. Et nous avons pensé bien de structurer cette présentation à la fois d'une façon biographique, mais aussi autour des cinq grandes œuvres ou cinq bontés qui peuvent être donc les grandes bontés ou les grandes œuvres de Kalu Dorje Chang. Les cinq sont d'abord d'avoir transmis l'expérience de la nature de l'esprit et de la réalité, de l'avoir amené, d'avoir amené cette expérience parmi nous, de l'avoir transmise. Nous allons y revenir. Ensuite, il a constitué de par le monde des centres de retraite pour la pratique yogique et pour la transmission de toute la tradition et pour l'éveil de cette expérience essentielle de la nature, de la réalité et de l'esprit. Sa troisième grande bonté a été d'essaimer à tout vent de par le monde des cercles de pratiquants, des centres de retraite, là des centres de pratiquants, des cercles de pratiquants, des centres du Dharma, des centres du Dharma urbains, là où sont ceux qui pratiquent dans la vie quotidienne. Sa quatrième grande œuvre, qui est plus au niveau de l'étude, a été d'entreprendre la traduction de l'Encyclopédie des connaissances traditionnelles. Et sa cinquième a été ce que l'on nomme aujourd'hui les Kagyumenlam, une grande rencontre annuelle à Bodh Gaya qui regroupe des dizaines de milliers de pratiquants pour des souhaits. Donc, revenons sur ces cinq bontés. La première est la transmission de la nature de la réalité de l'esprit. Non pas dans un discours, non pas dans une philosophie, mais dans l'inspiration yogique, dans la transmission, l'éveil de l'expérience aconceptuelle, de l'expérience directe, immédiate, qu'est cette expérience de la nature de l'esprit, de la cognition, de la réalité. Elle a beaucoup de noms. Elle se nomme l'état de Mahamudra, l'état de Dzogchen, la présence absolue, l'état de présence d'instantanéité, le quatrième temps de l'éternel présent, libre des trois autres. Cette expérience, cet état, qui est Mahamudra, Dzogchen, est le cœur, l'essence de tous les enseignements du Bouddha. Il en est le fond, il en est l'origine et la réalisation. Et non seulement cette réalisation, cette expérience, cet état est-elle le cœur des enseignements du Bouddha, mais elle est aussi véritablement le cœur et l'essence de toute spiritualité authentique, dans son fond, dans son essence. C'est ce que Kalu Dorje Chan a aussi exprimé dans l'attitude et la présentation Rimei, qui fut la sienne. Rimei a le sens d'ouvert. Sukhasiddhi disait Rimei comme l'espace, ouvert comme l'espace, sans orientation. Donc, une présentation ou une Rimei est celle de l'expérience essentielle. L'expérience essentielle est une, ces expressions sont multiples. C'est une présentation que l'on peut dire aussi d'unité dans la diversité, d'unité de l'expérience dans la diversité de ces expressions. Et il est très important de comprendre que l'essentiel est une expérience, pas des conceptions. L'expérience rassemble, les concepts divisent. Don Kalu Dorje Chan eut la bonté d'amener cette expérience, de nous la transmettre, de la faire vivre en Occident et partout où il passa. Que ce soit dans la tradition tibétaine, que ce soit dans la tradition du Bouddha, ou que ce soit même dans d'autres traditions spirituelles, on ne saurait surestimer l'importance de cette expérience et de cette transmission. Ça donne sa plus grande bonté, sa plus grande œuvre, et des cinq, la première. Mais comme il s'agit d'une expérience qui ne se transmet pas comme une information, comme un paquet de data qu'on enverrait dans une fibre optique. Comme il s'agit d'une expérience et d'une expérience qui se découvre dans l'ouverture que permet l'épuisement de nos saisies, l'épuisement de la saisie que je suis, de la saisie de l'ego, de la saisie de duel. Comme il s'agit d'une expérience qui ainsi nécessite, une fois découverte, d'être cultivée, il est important de la pratiquer. Il est important de pouvoir s'y consacrer, se consacrer à sa pratique de façon suivie, en s'y donnant, en s'y abandonnant, en s'y donnant complètement. Ce qui se fait au mieux dans une situation de retraite. Et c'est pour cela que Kalu Dorje Chang a créé de par le monde de nombreux centres de retraite, pour la retraite de 3 ans en particulier, qui est un format qui fut initié par Jamdon Khonkhud Lodre Taye pour raviver la transmission et la pratique yogique. Jamdon Khonkhud Lodre Taye, au XIXe siècle, mit en place ce format de la retraite de 3 ans, là où il était, à Tsantrai Chandra, à côté du monastère de Pepung, dans le Kham, l'est du Tibet. C'est là que aussi Kalu Dorje Chang fut maître de retraite. Ce format donne l'occasion d'une transmission complète de l'essentiel de la voie yogique. Et c'est là aussi sa deuxième bonté, que d'avoir transmis et d'avoir offert la transmission complète de cette tradition du toit du monde, qui maintenant vit et se continue en Occident. Cela s'est ainsi fait dans et par ce centre de retraite, l'Osum Chosum. À sa suite et dans son exemple, nous en avons installé ici. Cela fait maintenant longtemps, puisque le 10 août, la 7e retraite de 3 ans, l'Osum Chosum, va sortir. Donc à raison de 4 années par retraite, avec les intervalles, ça fait une trentaine d'années. Ce fut sa deuxième grande bonté que d'offrir la tradition complète pour permettre la réalisation de la nature de l'esprit expérience dans et par cette formule de retraite. Mais comme il n'est pas possible que tous dans le monde moderne fassent 3 années de retraite, et qu'il est dans tous les cas aussi nécessaire et important, indispensable de pratiquer là où l'on est, la voie commençant là où l'on est, qui que l'on soit, où que l'on soit, il a développé de par le monde des centres du Dharma, comme aussi ici, ce lieu qu'il a nommé Shedup Chulin, c'est-à-dire le lieu pour l'étude et la pratique du Dharma. Il en a, au fil de ses pérégrinations dans le monde, inspiré plusieurs centaines. Ces centres du Dharma, cercles de pratiquants, sont des lieux qui permettent, dans la vie quotidienne, contemporaine, d'entrer dans la compréhension, dans l'expérience du Dharma et d'intégrer celle-ci tout en ayant une vie sociale, professionnelle, familiale, comme tout un chacun. C'est la voie yogique dans la vie quotidienne. Et elle s'est développée maintenant même de telle sorte que la transmission complète y est possible, avec une forme de retraite parallèle qui permet, tout en ayant une vie active, intégrée, de suivre l'ensemble des transmissions et des pratiques de la tradition yogique. Ce fut sa troisième grande bonté. La quatrième est d'avoir rendu disponible le cœur de la tradition dans sa compréhension et scripturaire, initiant la traduction de l'Encyclopédie des connaissances traditionnelles, un ouvrage de Jamdon Tongchul Lodre Taye, qui, en une dizaine de volumes, ça dépend des éditions, mais constitue une encyclopédie qui résume tout le cœur du Dharma et tout l'essentiel de la science traditionnelle qu'est le Dharma et des différentes sciences traditionnelles qui gravitent autour. Kyalu Dorje Chan disait, par les temps qui courent, il est difficile d'étudier des dizaines ou des centaines d'ouvrages. Donc, s'il n'en est qu'un à étudier, que ce soit celui-ci, l'encyclopédie, car il les résume tous. Et il a ainsi commencé en 1987 ce qui se nomme en tibétain Dzamlin Jajur Chunchab, c'est-à-dire ça a pris le nom de groupe de traduction de Kalu Rinpoche. Le titre, le nom proprement dit, signifiant le comité de traduction internationale, comité, groupe de ou comité de traduction internationale, avec le propos de traduire cette encyclopédie et aussi de traduire les différents textes de la tradition, les textes de pratique et leurs commentaires. Ce groupe de traduction a œuvré depuis 1987 et a terminé la traduction de l'encyclopédie en anglais. Elle a été publiée, achevée, c'était l'année dernière à peu près. Et nous sommes actuellement en train de travailler en français pour aussi la terminer, à échéance dans une V0 peut-être de la fin de l'année. C'est un énorme travail qui va nécessiter d'ailleurs une maturation interactive des étudiants. Les traductions du sanskrit en tibétain, pour se caler bien, ont pris quelques centaines d'années. Donc, avec les communications plus rapides que nous avons aujourd'hui en Occident, on peut espérer que ça prenne peut-être 10 fois moins de temps, mais ça fait toujours encore un certain nombre de dizaines d'années. Donc le processus est encore en cours. Mais cette encyclopédie est aujourd'hui au cœur du collège d'études traditionnel, le Chedra, dans son premier cycle, dans son deuxième cycle. Donc c'est l'essence de la tradition dans sa dimension scripturaire et intellectuelle. Mais là aussi dans une perspective yogique qui est comprendre dans l'expérience. Ce fut sa quatrième grande bonté que d'avoir rendu cette encyclopédie disponible et d'avoir encouragé les traductions dans différentes langues. Et nous espérons que celle-ci, cette traduction, pourra se faire encore, pas seulement en anglais et en français, mais en d'autres langues européennes et d'Asie, en chinois et d'autres, qui sait. La cinquième grande œuvre de Kalu Dorje Chang fut les Kagyu Mönlam. Mönlam, pranidhana en sanskrit, est la pratique des souhaits. Cette grande pratique de souhait qui se développe maintenant chaque année à Bodh Gaya, à la fin de l'année, sera la 32e édition, du 28 décembre au 4 janvier. Nous y serons, d'autant que le Gelwang Karmapa a souhaité rendre à cette occasion un hommage particulier à Kalu Dorje Chang, à l'occasion du 25e anniversaire de son parinirvana. Il a aussi pensé que ce serait le moment d'annoncer et de présenter la renaissance de Kyabje Boka Rinpoche. Donc ce sera, en plus des Mönlam en eux-mêmes, un double événement d'hommage à Vajradhara Kalu Rinpoche et Vajradhara Boka Rinpoche. Les prières de souhait sont beaucoup plus que de faire des souhaits comme cela, comme on pourrait le vivre, de faire un souhait. Mais il s'agit de faire un souhait du fond de son cœur, dans le fond du fond de son cœur, et les souhaits que l'on exprime, que l'on vit et que par là même l'on imprime dans le fond du fond de son cœur sont des empreintes qui vivent en nous et qui profondément vivant en nous aussi nous animent, animent notre vie, animent nos actions, nos faits et gestes, et non seulement les animent, mais aussi, et il y a là quelque chose qui peut être difficile à comprendre, mais dans le jeu d'interconnexion et de coïncidence inconcevable et illimitée, amène l'actualisation, la réalisation et la manifestation de ce qui est souhaité. Donc, faire des souhaits, ainsi de profonds souhaits du cœur, est une pratique extrêmement importante. Et c'est ainsi que Kalu Dorje Chan l'a mise à l'honneur à Bodh Gaya, au siège Vajra, là où le Bouddha Sakyamuni s'est éveillé. Depuis maintenant, dans 32 ans, puisque ce sera la 32e édition, cette pratique s'est assemblée, a grandi. À la suite de Vajradhara Kalu Rinpoche, Vajradhara Bhaka Rinpoche a pris la suite. Et à la suite de celui-ci, le Gyalwang Karmapa, maintenant, Ogyen Chinle Dorje, anime et conduit ces grands menlames. C'est aussi un grand rassemblement du Sangha monastique, avec une dizaine de milliers de moines et de moniales, et c'est un grand rassemblement international pour tous ensemble, pratiquants, exprimer des souhaits d'éveil et des souhaits pour le monde et pour tous. C'est la cinquième grande bonté de Kalu Dorje Chan que d'avoir initié ces Kagyu Menlam. Donc, voici ces cinq grandes bontés, ces cinq grandes œuvres. Et en tant que disciples, nous en avons hérité, nous continuons dans son exemple, dans son inspiration. Et en tant que disciples, devenus à notre tour héritiers de la lignée, détenteurs de celle-ci, il est notre, on pourrait dire devoir, mais c'est plus qu'un devoir. Il est naturel que de continuer dans ce sillon, dans ce sillage, de le développer, de l'amplifier, de le faire rayonner, de l'inspirer et de le partager ouvertement en Bodhisattva avec tous. Donc voici les cinq grandes œuvres de Kalu Dorje Chan et leur présence ici aujourd'hui. C'est pourquoi cette journée se nomme aussi « May the force be with us », que la force soit avec nous, que la force de l'éveil, la force des bodhisattvas, la force Vajra, la force des qualités éveillées soit avec nous, nous anime et continue cette transmission de santé pour le bien de tous, pour le triple bien, le nôtre, celui d'autrui et celui de tous les vivants. Un petit moment de contemplation, petite pause. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.